Aristote, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, leçon de physique, livre premier, chapitre 4. Sommaire. Réfutation de Mélissus, réfutation de Parménide, conséquences insoutenables de ces deux systèmes. L'unité de l'être ne peut se comprendre. Systèmes qui ont admis à la fois l'unité et la division de l'être. Réfutation de ces systèmes. Paragraphe 1. Même en partant des principes que ces philosophes admettent dans leurs démonstrations, il n'est pas difficile de résoudre les questions qui les arrêtent. Le raisonnement de Mélissus et de Parménide est également captieux. Ils ont l'un et l'autre des prémices fausses et ils ne concluent pas régulièrement. Mais le raisonnement de Mélissus est encore plus grossier et ne peut pas même causer la moindre hésitation. Il suffit d'une seule donnée absurde pour que toutes les conséquences le soient également. Et c'est une chose plus facile à voir. Paragraphe 2. Il est de toute évidence que Mélissus raisonne mal, car il admet cette hypothèse que du moment que tout ce qui a été produit a un principe, ce qui n'a pas été produit ne doit point en avoir. Paragraphe 3. C'est encore une erreur non moins grave de supposer que toute chose a un commencement et que le temps n'en a point. Qu'il n'y a point de principe pour la génération absolue, mais qu'il y en a pour l'altération, comme s'il n'y avait pas tel changement complet qui se produit tout d'une pièce. Paragraphe 4. Ensuite, pourquoi l'être doit-il être immobile parce qu'il est un? En effet, quand une partie du tout, qui est bien une, de l'eau par exemple, se meut par elle-même, pourquoi l'être entier ne pourrait-il pas se mouvoir lui aussi de la même façon? Et pourquoi l'altération y serait-elle impossible? Paragraphe 5. Enfin, il ne se peut pas que l'être soit un en espèce, à moins que ce ne soit par l'identité du principe d'où il sort. Il est même certains physiciens qui entendent l'unité de l'être entier en ce dernier sens et qui ne l'entendent pas dans l'acception précédente. Car, disent-ils, l'homme, par exemple, est en espèce différent du cheval, et les contraires diffèrent également d'espèces entre eux. Paragraphe 6. Les mêmes arguments peuvent être employés contre Parménide, bien qu'on puisse aussi lui en opposer de spéciaux. Et la réfutation consiste encore pour lui à démontrer d'une part que ces données sont fausses et d'autre part qu'elles ne concluent pas. Paragraphe 7. D'abord, la donnée est fausse en ce qu'il suppose que le mot « être » n'a qu'un seul sens, tandis qu'il en a plusieurs. Paragraphe 8. En second lieu, il ne conclut pas régulièrement en ce qu'en admettant même que le blanc soit un, les objets blancs n'en sont pas moins plusieurs et non point un seul, évidemment. En effet, le blanc n'est ni un par la continuité, ni par la définition, car l'essence de la blancheur est autre que l'essence de l'être qui reçoit cette blancheur. Et, en dehors de l'être qui est blanc, il n'existe pas de substance séparée, puisque ce n'est pas en tant que la blancheur est séparée qu'elle diffère de l'être blanc. Mais encore une fois, c'est que l'essence de la blancheur est autre que l'essence de l'être à qui cette blancheur appartient. Or, c'est ce que Parménide n'a pas su voir. Paragraphe 9. Ainsi donc, quand on soutient que l'être est un Il faut de toute nécessité admettre non seulement que l'être exprime l'un, bien que l'un lui soit attribué, mais qu'il exprime aussi tout ensemble et l'existence réelle de l'être et l'existence réelle de l'un, puisque l'accident est toujours attribué à un sujet. Par suite, le sujet auquel alors on applique l'être comme attribut n'a plus d'existence propre puisqu'il est différent de l'être. Et voilà un être sans existence qui existe. C'est que de fait, rien n'a l'existence substantielle que ce qui est réellement, car il ne se peut pas qu'un être soit son attribut à lui-même, à moins que le mot « être » n'ait plusieurs sens qui permettent d'attribuer l'existence à chacune de ces choses particulières. Mais on suppose que l'être ne signifie que l'un. Paragraphe 10. Si donc l'être réel n'est jamais l'attribut accidentel de quoi que ce soit, mais qu'il reçoive au contraire les attributs, comment pourra-t-on dire que l'être vrai signifie l'être plutôt que le non-être? Car si l'être réel se confond avec le blanc, par exemple, et que l'essence du blanc ne soit pas identique à celle de l'être, puisqu'aucun être ne peut jamais être l'attribut du blanc, il s'ensuit qu'il n'y a d'être que l'être réel. Et le blanc, dès lors, n'est pas, non point en ce sens qu'il n'est pas tel être, mais en ce sens qu'il n'est pas absolument du tout. Ainsi, l'être réel devient un non-être, car il est exact de dire qu'il est blanc, et le blanc n'exprimait pas l'être. Paragraphe 11. En résumé, si le blanc exprime un être réel, il faut reconnaître dès lors que le mot « être » peut avoir plusieurs sens divers. Paragraphe 12. L'être, tel que le comprend Parménide, ne sera même plus susceptible d'une dimension quelconque du moment que ce seul être est l'être réel, puisque chacune des deux parties du tout a toujours un être différent. Paragraphe 13. Pour se convaincre que l'être réel se divise essentiellement en un autre être, il suffit de regarder à la définition d'un être quelconque. Par exemple, si l'homme est défini un certain être réel, il faut absolument que l'animal et le bipède soient également des êtres, car si ce ne sont pas des êtres, ce sont des accidents, soit de l'homme, soit de tout autre sujet, ce qui est évidemment impossible. Paragraphe 14. En effet, on entend par accident ou attribut dans le langage ordinaire d'abord ce qui peut indifféremment être et ne pas être dans le sujet, et ensuite ce dont la définition comprend l'être dont il est l'attribut. Ainsi, être assis est un simple accident d'un être quelconque, en tant qu'accident séparable. Mais dans l'attribut Kamar, il y a la définition de « né », car c'est du nez seul que nous disons qu'il peut accidentellement être Kamar. Paragraphe 15. Il faut ajouter encore que tout ce qui est compris dans la définition essentielle d'une chose ou qui en forme les éléments ne comprend pas néanmoins nécessairement dans sa définition la définition du tout lui-même. Ainsi, la définition de l'homme n'est pas dans celle du bipède, ou bien encore celle de l'homme blanc n'est pas dans la définition du blanc. Paragraphe 16. Si donc il en est ainsi, et que le bipède soit un simple accident de l'homme, il faut nécessairement que l'accident soit séparable, c'est-à-dire que l'homme puisse n'être pas bipède, ou autrement, la définition de l'homme serait impliquée dans l'idée de bipède. Mais c'est là ce qui est impossible, puisqu'au contraire, c'est l'idée de bipède qui est impliquée dans la définition de l'homme. Paragraphe 17. Si le bipède, ainsi qu'animal, peut être l'accident d'un autre être, il s'ensuit que ni l'un ni l'autre ne sont des êtres réels, et que l'homme est aussi au nombre des accidents qui peuvent être attribués à un autre être. Mais l'être réel est précisément ce qui ne peut jamais être accident ou attribut de quoi que ce soit. C'est le sujet auquel s'appliquent les deux termes, soit chacun séparément, soit même réunis dans le composé total qu'ils forment. Paragraphe 18. Ainsi donc, l'être total est composé d'indivisibles. Paragraphe 19. Quelques philosophes ont donné les mains aux deux solutions à la fois. D'une part, à celle qui admet que tout est un, si l'être signifie un, et que le non-être lui-même est quelque chose. Et d'autre part, à celle qui arrive par la méthode de division successive en deux, par la dichotomie, à reconnaître des existences et des grandeurs individuelles. Paragraphe 20. Mais évidemment, il est faux de conclure parce que l'être signifierait l'un et parce que les contradictoires ne peuvent être vrais à la fois qu'il n'y a pas de non-être, car rien ne s'oppose à ce que le non-être soit non pas absolument quelque chose qui n'est pas, mais qu'il ne soit pas un certain être. Ce qui est absurde, c'est de soutenir que tout est un par cela seul qu'il n'existe rien en dehors de l'être lui-même. Car qui pourrait comprendre ce qu'est l'être, s'il n'est pas un certain être réel? Et s'il en est ainsi, rien ne s'oppose à ce que les êtres soient multiples, ainsi que je l'ai dit. Paragraphe 21. Il est donc de toute évidence qu'à ce point de vue, il est impossible de dire que l'être soit un. Chapitre 5. Sommaire. Réfutation de quelques autres systèmes sur l'unité de l'être. Les physiciens, Platon, Anaximandre, Empédocle. Réfutation spéciale d'Anaxagore. Il n'est pas possible que tout soit dans tout. Démonstration de l'absurdité de ce principe. Autre erreur d'Anaxagore sur la génération des choses. Empédocle. Paragraphe 1. Pour étudier ce que disent les physiciens, il faut distinguer deux systèmes. Paragraphe 2. Les uns, trouvant l'unité de l'être dans le corps qui sert de sujet substantiel aux attributs, ce corps étant pour eux soit un des trois éléments, soit tel autre corps, plus grossier que le feu et plus subtil que l'air, en font sortir tout le reste des êtres, dont ils reconnaissent la multiplicité par les modifications infinies de la condensation et de la raréfaction, de la densité et de la légèreté. Mais ce sont là des contraires qui, d'une manière générale, ne sont qu'excès et défauts, comme dit Platon en parlant du grand et du petit. Seulement Platon fait de ces contraires la matière même, réduisant l'unité de l'être à la simple forme, tandis que ces physiciens appellent matière le sujet qui est un et appellent les contraires des différences et des espèces. Paragraphe 3. Quant aux autres physiciens, Ils pensent que les contraires sortent de l'être un qui les renferme, comme le croient Anaximandre et tous ceux qui admettent à la fois l'unité et la pluralité des choses, par exemple Empédocle et Anaxagore. Car ces deux derniers philosophes font sortir aussi tout le reste du mélange antérieur. Et la seule divergence de leurs opinions, c'est que l'un admet le retour périodique des choses, tandis que l'autre n'y admet qu'un mouvement unique. C'est que l'un regarde comme infini les parties similaires des choses et les contraires, tandis que l'autre ne reconnaît pour infini que ce qu'on appelle les éléments. Paragraphe 4. Si Anaxagore a compris de cette façon l'infinité de l'être, c'est, à ce qu'il semble, parce qu'il se rangeait à l'opinion commune des physiciens, que rien ne peut venir du néant. Car c'est par le même motif qu'il soutient que tout à l'origine était mêlé et confus, et que tout phénomène est un simple changement, comme d'autres soutiennent encore qu'il n'y a jamais dans les choses que composition et décomposition. Paragraphe 5. Anaxagore s'appuie de plus sur ce principe que les contraires naissent les uns des autres. Donc, ils existaient antérieurement dans le sujet, car il faut nécessairement que tout ce qui se produit vienne de l'être ou du néant. Et s'il est impossible qu'il vienne du néant, axiome sur lequel tous les physiciens sont unanimement d'accord, reste cette opinion qu'ils ont dû accepter, à savoir que toutes les nécessités contraires naissent d'éléments qui existent déjà et sont dans le sujet, mais qui, grâce à leur petitesse, échappent à tous nos sens. Paragraphe 6. Il soutenait donc que tout est dans tout, parce qu'il voyait que tout peut naître de tout. Et il prétendait que les choses ne paraissent différentes et ne reçoivent des noms distincts que d'après l'élément qui domine en elles par son importance, au milieu du mélange des parties, dont le nombre est infini. Ainsi, jamais le tout n'est purement ni blanc, ni noir, ni doux, ni chair, ni os. Mais c'est l'élément prédominant qui est pris pour la nature même de la chose. Paragraphe 7. Cependant, si l'infini en tant qu'infini ne peut être connu, l'infini en nombre et en grandeur étant incompréhensible dans sa quantité, et l'infini en espèce l'étant dans sa qualité, il s'ensuit que du moment que les principes sont infinis en nombre et en espèce, il est impossible de jamais connaître les combinaisons qu'ils forment, puisque nous ne croyons connaître un composé que quand nous savons l'espèce et le nombre de ses éléments. Paragraphe 8. De plus, si une chose dont la partie peut être d'une grandeur ou d'une petitesse quelconque, elle-même est susceptible de ces conditions. J'entends une de ces parties dans laquelle se divise le tout. Et s'il est possible qu'un animal ou une plante soit d'une dimension arbitraire en grandeur ou en petitesse, il n'est pas moins clair qu'aucune de ces parties non plus ne peut être d'une grandeur quelconque, puisqu'alors le tout en serait également susceptible. Or, la chair, les os et les autres matières analogues sont des parties de l'animal, comme les fruits le sont des plantes, et il est parfaitement évident qu'il est de toute impossibilité que la chair ou telle autre partie ait une grandeur quelconque indifféremment, soit en plus, soit en moins. Paragraphe 9. En outre, si toutes les choses telles qu'elles sont existent les unes dans les autres, et si elles ne peuvent jamais naître, ne faisant que se séparer du sujet où elles sont antérieurement, et étant dénommées d'après ce qui domine en elles, alors tout peut naître de tout indistinctement. L'eau provient de la chair d'où elle se sépare, ou la chair provient de l'eau, indifféremment. Mais alors, tout corps fini est épuisé par le corps fini qu'on en retranche, et l'on voit sans peine qu'il n'est pas possible que tout soit dans tout. Car si de l'eau, on retire de la chair, et que d'autres chairs sortent encore du résidu, par voie de séparation, quelque petite que soit de plus en plus la chair ainsi tirée de l'eau, elle ne peut jamais, par sa ténuité, dépasser une certaine quantité appréciable. Par conséquent, si la décomposition s'arrête à un degré précis, c'est que tout n'est pas dans tout, puisqu'il n'y a plus de chair dans ce qui reste d'eau. Et si la décomposition ne s'arrête pas, et qu'il y ait séparation perpétuelle, dès lors, il y aura dans une grandeur finie des parties finies et égales entre elles, qui seront en nombre infini, et c'est là une chose impossible. Paragraphe 10. J'ajoute que, quand on enlève quelque chose à un corps quelconque, ce corps entier devient nécessairement plus petit. Or, la quantité de la chair est limitée, soit en grandeur, soit en petitesse. Ainsi, évidemment, de la quantité la plus petite possible de la chair, on ne pourra plus séparer aucun corps, car alors, il serait moindre que la quantité la plus petite. Paragraphe 11. D'autre part, il y aurait déjà, dans les corps supposés infinis, une chair infinie, du sang et du cerveau en quantité infinie, éléments séparés tous les uns des autres, mais qui n'en existent pas moins cependant, et chacun d'eux serait infini, ce qui est dénué de toute raison. Paragraphe 12. Prétendre que jamais la séparation des éléments ne sera complète, c'est soutenir une idée dont peut-être on ne se rend pas bien compte, mais qui au fond n'en est pas moins juste. En effet, les qualités affectives des choses en sont inséparables. Si donc les couleurs et les propriétés des êtres étaient primitivement mêlées à ces êtres du moment qu'on les aura séparés, il y aura quelques qualités, par exemple, le blanc ou le salubre, qui ne sera absolument que salubre ou blanc, et qui ne pourra plus même alors être l'attribut d'aucun sujet. Mais l'intelligence supposée par Anaxagore tombe dans l'absurde quand elle prétend réaliser des choses impossibles et quand elle veut, par exemple, séparer les choses, lorsqu'il est de toute impossibilité de le faire, soit en quantité, soit en qualité. En quantité, parce qu'il n'y a pas de grandeur plus petite, en qualité, parce que les affections des choses en sont inséparables. Paragraphe 13. Enfin, Anaxagore n'explique pas bien la génération des choses en l'attirant de ces espèces similaires. En un sens, il est bien vrai que la boue se divise en d'autres boues, mais en un autre sens, elle ne s'y divise pas. Et si l'on peut dire que les murs viennent de la maison, et la maison des murs, ce n'est pas du tout de la même manière qu'on peut dire que l'air et l'eau sortent et viennent l'un de l'autre. Paragraphe 14. Il vaudrait mieux admettre des principes moins nombreux et finis, comme l'a fait Empédocle.